Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Pour prolonger le dossier barbecue,
oui.
Une auditrice me souligne, article à l'appui, qu'il pourrait y avoir une origine du mot espagnol barbacoa.
OK.
Et que ça pourrait être l'origine également du mot barbecue.
Bon.
Tout dépendant de la thèse.
Voilà.
J'aime bien la tienne, mais je ne saurais dire laquelle est la vérité.
Donc, il faudra...
À vous de départager.
On va mettre un homme là-dessus.
Je ne penserais pas. Mais je vais fouiller cette semaine, tu sais, puis on s'en parlera la semaine prochaine. Ça va?
Oui, absolument.
Christian, bon, cette semaine, dans nos éphémérides du mois d'avril, il y a 96 ans, c'est la semaine dernière, on commémorait le naufrage du Titanic.
Voilà, donc évidemment, si on dit nuit du 14 au 15 avril 1912, la plupart des auditeurs auront en mémoire cet événement du Titanic, non pas parce qu'ils y étaient, mais tellement médiatisé à travers la littérature, les livres et le cinéma, bien sûr. Donc, c'est une date qui a marqué l'histoire du 20e siècle, dans les grands éphémérides du 20e siècle. Donc, cette nuit, je rappelle les événements. On est dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. L'incident, en fait, qui va amener le naufrage du Titanic et, en fait, la collision avec un iceberg vers à peu près 23h30 dans la soirée du 14 avril. Ça reste un peu mystérieux comment, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait un feu quelque part dans la cale qui aurait affaibli le métal. Quoi qu'il en soit, lorsque le paquebot entre en collision avec le iceberg, il va ouvrir une brèche de 100 mètres de long dans la carène du navire. Et vers 2h30 du matin, le navire va sombrer. On sait qu'il n'y avait pas suffisamment de canots de sauvetage pour l'ensemble des passagers. Donc le navire qui transportait à peu près 2200 personnes va sombrer. 1500 victimes, 700 survivants. Donc, ce qui va frapper l'imaginaire avec cette histoire du Titanic, c'est parce que l'on dit que c'était le plus grand navire de son époque, le plus luxueux, et bien sûr, il avait la réputation d'être insubmersible.
Exactement. Mais il y avait une construction rapide. On se demande si on n'a pas viré, tourné les coins ronds un peu dans certains cas.
Absolument. Le fait qu'on avait passé sous silence le fait qu'il y avait un feu qui faisait rage depuis 2 jours dans la cale avant, qui aurait pu affaiblir le métal et sur lesquels, évidemment, la compagnie, la White Star Line, évidemment, jouait un peu toute la carte du panache du navire. Donc, ces petits éléments qui ont pu affecter la sécurité du navire ont été un peu passés sous silence. Donc, quoi qu'il en soit, 1500 morts, 700 survivants. Et là, les gens diront que c'était un événement unique. C'était une première dans l'histoire de la navigation civile, qu'une catastrophe comme celle-là se produise. Mais ce qu'il y a d'assez curieux, quand on regarde dans les éphémérides, disons, du surnaturel de l'étrange, en 1898, un auteur américain du nom de Morgan Robertson, qui était un peu inconnu au bataillon, c'était pas un super auteur connu pour des ouvrages populaires, des best-sellers, c'était un ouvrage un peu obscur, un auteur un peu obscur. Il a publié en 1898 un ouvrage qui s'appelle « Futilité, le naufrage du Titan ». Donc, même là, le nom est proche, le Titanic, le Titan. Et dans son roman, Morgan Robertson décrit les derniers instants d'un luxueux paquebot, le Titan, qui, de son époque, évidemment, toujours selon la trame du roman, est le plus gros, le plus luxueux navire de son temps. Le navire que l'on dit, encore une fois, dans le roman insubmersible, a 19 cloisons étanches. Le Titanic en avait 16. Le Titan, dans le roman de Robertson, fait 240 mètres de long, ce qui était à peu près impossible selon les standards de la construction navale de cette époque. Donc, on voit que c'est un navire au superlatif. Donc, il fait 240 mètres. Le Titanic en faisait 269. Dans le roman, le Titan heurte un iceberg dans l'Atlantique Nord. Le Titanic heurte un iceberg dans l'Atlantique Nord. Les deux navires, autant celui dans la réalité que celui dans la fiction, naviguaient à une vitesse de 25 nœuds. Et dans les deux cas, on a déploré un très grand nombre de décès parce que le navire ne contenait pas suffisamment de canots de sauvetage pour pouvoir transporter tous les passagers. Donc, quand on regarde la trame de ce roman « Futilité, le naufrage du Titan » signé Morgan Robertson, on est frappé par les coïncidences qu'on retrouve dans le roman versus le roman du Titanic. Malheureusement, Morgan Robertson est décédé sans nous dire comment il avait eu cette vision ou l'inspiration inspiration prophétie, pour écrire son roman. Mais c'est vrai que dans la littérature, on retrouve souvent cette relation entre le Titan et le roman Futilité, Le naufrage du Titan par Morgan Robertson.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont crié au complot, sûrement?
Pas tellement au complot, mais bien sûr à une espèce de clairvoyance. Quoique les gens, de façon plus critique, on peut dire que quand même Morgan Robertson s'est fié à des standards. Déjà à l'époque où il écrit le roman, on parle de construire des navires qui dépasseront bientôt 200 mètres de long. Il faut savoir également qu'à l'époque, les lois, et c'était vrai pour le Titanic, c'est vrai pour le Titan dans le roman, les lois exigeaient, dans le cas du Titanic, on exigeait 20 canots de sauvetage. C'était la loi maritime. Donc, Morgan Robertson se fie à la loi, on exige 20 canots. Dans le cas du Titanic, il y en avait 24. La White Star Line avait été généreuse, on avait mis 4 de plus. Mais en réalité, ça ne faisait que répondre à des critères, des standards légaux qui contrôlaient la navigation maritime. Et évidemment, la route Southampton-New York, en fait Angleterre-New York, était la route la plus populaire. Et même s'il est vrai que les naufrages par iceberg étaient une cause rarissime, hein, très peu de navires sont entrés en collision avec un iceberg, c'est vrai que c'était une crainte de tous les capitaines qui empruntaient cette voie au printemps, parce que, bien sûr, on avait des icebergs qui descendaient du nord vers les eaux plus chaudes. Et évidemment, il y avait toujours la crainte dans l'obscurité de frapper l'un de ces icebergs. Donc, il y avait quand même une sorte de préoccupation de ce temps-là qui a pu inspirer Morgan Robertson, et malheureusement, le Titanic, lui, a été la réalisation de ses craintes et de ses appréhensions.
La prochaine histoire, moi, je me délègue déjà parce qu'elle se passe au Wisconsin.
On est dans l'Amérique profonde.
Non, mais c'est comme ça, toute l'histoire de paranormal ou de ça, on dirait que ça arrive du Wisconsin ou de ce coin-là.
Et écoute, Mathieu, ici, là, on pourrait presque faire une blague. Quand les gens nous parlent des ovnis, c'est vrai qu'il y a une espèce de conception publique. Ils disent, c'est toujours le gars qui est perdu dans son champ au milieu de l'Amérique profonde, là, tu sais, qui, bon, avec ses bottes de caoutchouc, un éleveur de poulets, il a vu des martiens. Mais... Écoute, on est en plein dedans. Écoute, tu ne peux pas avoir un stéréotype aussi marqué que celui-là. L'affaire se passe le 18 avril 1961. Écoute, c'est un vrai petit bijou, là. On est à Eagle River, au Wisconsin. Il y a 240 habitants à Eagle River.
Moi, je pense qu'il faudrait le dire avec de l'écho. Je ne sais pas si notre producteur est capable de nous faire ça, mais on va présenter l'histoire avec un peu d'écho, justement.
Donc, il est à peu près 11 heures en matinée. Et là, ce type... Paul Simonton, que tout le monde surnomme Joe.
À Eagle River, Wisconsin.
C'était le 18 avril 1961.
Voilà, c'était parfait.
Donc, on a ce type, Paul Simonton, un homme de 60 ans, que tout le monde appelle Joe.
Paul Joe, évidemment.
Tout le monde s'appelle Joe à Eagle River. Et donc, il est éleveur de poulets. Ça commence bien. Et alors, donc, il est en train de prendre son petit déjeuner. Je suppose qu'il mangeait des œufs. Ah! Il regarde par la fenêtre.
Moi, tu réussiras pas à la finir.
Et là, il voit deux bols renversés en métal qui s'approchent et qui se posent dans son jardin. Alors, Joe sort de chez lui et là, s'interroge un peu sur la présence de cet objet. Un objet comme il n'en a jamais vu un. Là, comme il s'approche, il y a une espèce de porte qui s'ouvre, une écoutille. Et là, il voit à l'intérieur de l'engin trois hommes. Ils sont vêtus d'une espèce de combinaison, en fait. Ils portent une espèce de chandail de laine à col roulé. Ils ont les cheveux noirs, un teint basané. Et ce Joe dira, on aurait dit des Italiens. Et là, il s'approche.
On aurait dit des Italiens.
On aurait dit des Italiens.
Okay.
Il s'approche de la machine et l'un d'entre eux lui remet un seau qui semble être fait en aluminium avec deux poignées. Il lui donne ça. Il lui fait comprendre par geste qu'il a besoin d'eau. Alors, Joe part avec le seau, va au puits, remplit le seau d'eau, le ramène, il le donne au passager de la machine et en lui donnant, il se met la tête dans l'engin et là, il voit que l'un des passagers est en train, semble-t-il, de faire de la cuisine sur une cuisinière.
Ah oui, t'as assez bien écrit quand même. Cuisine
tout Ikea, parfait ça. Le type est en train de faire sa cuisine et là, Joe, lui, il voit que le bonhomme en question fait des espèces de galettes. Alors, Simone donne fait signe qu'il voudrait une de ses galettes et on lui en donne 4. C'est merveilleux. Et lorsqu'il a, bon, il reçoit ses galettes, la porte se ferme et l'engin en question décolle. Simonton se retrouve avec ses 4 galettes made in space. Il en mange une. Il dira plus tard, en fait, que ça goûtait un peu le carton. Le quatron.
C'est une galette de sarrasin
ou quoi? Ça goûtait le quatron. Évidemment, ça le décourage de manger les 3 autres.
Tu peux comprendre.
Il y en a une qu'il va conserver, une autre qui sera donnée à un groupe d'amateurs d'OVNI locaux. Et le dernier, il va le donner à l'armée de l'air américaine. Parce qu'à cette époque, il faut savoir qu'au début des années 60, l'armée américaine avait un projet d'enquête sur les ovnis qui s'appelait le projet Blue Book. Donc, cette galette intergalactique va se retrouver entre les mains de l'armée qui vont faire analyser le biscuit en question. Et bon, décevant, il n'était composé que de farine, de levure et un peu de blé. Donc, rien de très exotique.
Les mêmes recettes que nous autres,
ouais,
pour s'imaginer.
Donc, voilà, on se dit, n'achetez pas les livres de recettes made in space, là, une recette...
Et là, ce qui est surprenant, en quelle année?
1961. Oui.
Ouais, c'est parce que le site Internet de Ricardo n'était pas accessible à ce moment-là.
Non, absolument pas. Mmh. Et bon...
Vient la recette.
Et on ne connaît pas trop, en dehors des ingrédients, on ne connaît pas les dosages. Un peu comme le poulet frit Kentucky. Tout est dans l'art du dosage.
Monsieur Page, est-ce qu'on va se laisser là-dessus? Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne semaine. Bye-bye. 11h34.